Votre télé.
Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
Bonsoir tout le monde, bienvenue aux Étés généraux, la dernière de la saison estivale. La dernière tout court parce qu'on ne revient plus après, peut-être on va revenir en juin, mais ça va être terminé pour nous à CIBL cette année. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe qui nous a donné cette chance d'être en studio avec vous, chers auditeurs. Donc, Benjamin Hogg au micro qui pleure un peu parce que je vais vous quitter. Donc, devant moi, Marc Ouimet, comment allez-vous?
Ça va très bien, écoute, il fait super beau, on a une super belle émission. C'est vrai, moi aussi, je suis un peu nostalgique pour la saison
déjà?
Qui se termine. Oui, déjà, on me demandait qu'est-ce que le Baron allait faire cet hiver. Je ne sais pas, mais ça sera sûrement pas... Ce sera sûrement pas saillant pour les bonnes mœurs des petits-enfants, mais bon, j'en ferai synthèse l'année prochaine.
Ici, les bonnes mœurs, c'est pas ce qui nous importe le plus. Et je suis très content aujourd'hui de la grande visite, la visite des îles de la Madeleine. On reçoit Marc-André Fauché qui...
Ben là, j'étais un peu triste là, de tous voir pleurer un peu sur le sort de sa dernière émission.
On est triste et heureux à la fois.
Ça va revenir à l'automne sûrement. Ça va être.
On est trop occupé. Ça reviendra pas à l'automne.
À l'été prochain.
L'été prochain, c'est
bon,
certain.
Je vais être au rendez-vous. J'espère que tu vas me redemander de faire des chroniques madeliniennes l'année prochaine.
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que tu vas être là. Et Hubert aussi qui est là.
Oui,
Hubert Sabineau.
Ça va bien.
Avec sa petite voix, mais toujours présent.
Petite voix douce et mélodieuse.
Bon, puis si vous entendez des gens en studio, c'est qu'on a nos fans, alors on est très heureux. Donc, quatre jolies jeunes filles en fleurs nous regardent en ce moment, c'est magnifique. Donc, Marc-André.
Oui.
T'es revenu.
C'est moi qui commence. J'arrive, là. Toi qui... Je viens d'arriver, comme je disais à Marc, au Baron, pardon.
Toi qui as décidé d'aller vivre aux îles de la Madeleine pour tenter de découvrir des nouvelles choses, de changer de vie complètement. Et là, tu reviens à Montréal.
Ben, on est venu venir, faire nos provisions, là, tu sais, voir les amis, chercher des petits produits fins au marché,
ben oui.
Tu te rappelles, j'avais oublié un Pixi?
Oui, c'est sûr, oui.
Alors, je l'ai reparti tantôt, là, je sais pas comment ça va me coûter. Et, comme je disais à Marc, on est venu en ponchon. Tu te rappelles, là, je t'avais expliqué c'était quoi un ponchon, c'est comme un baril qu'on met quelqu'un à l'intérieur ou des lettres, mais là pour nous c'était quelqu'un. On bouche les deux côtés du baril, on plante une voile et on a sauté comme ça à la mer. Eh bien, le hasard a fait qu'on est arrivé. J'arrive le premier, c'est pour ça que ma blonde puis ma fille sont probablement en route là, dans le coin de Québec, tout ça, là, puis ils ne pouvaient pas arriver à temps parce que là, ça dépend du poids du ponchon, tout ça. Mais je viens pas longtemps, je ne suis donc que de passage, parce que toute l'année, je vous ai entendu, j'ai combien de temps moi, 3-4 minutes?
Un petit peu moins peut-être.
Entendu faire de la poésie.
Oui.
Et là, je me suis dit, mon Dieu, ils vont finir par penser qu'aux îles, il n'y a pas de poète. Attention.
Ah, tu es la voix des
avons,
îles.
Nous avons aux îles de la Madeleine un poète national que vous connaissez sûrement, George Langford, qui nous fait le plaisir d'ailleurs, contrairement à tous les poètes nationaux, lui, d'être vivant. Alors, il vit, il marche, il parle, il enseigne même. Alors, George a écrit plusieurs poèmes, plusieurs chansons, et j'en ai un ici que je viens que je viens semer comme ça tout va à Montréal et que je vous laisse tout l'hiver réfléchir à ça. Et on en reparlera, je pensais à l'automne, mais donc à l'été prochain.
Ben, c'est une belle surprise.
Un poème?
Ben oui.
Ben oui, là, je te l'avais pas dit. J'y vais?
Ben oui, vas-y tout de suite.
Ça commence drôle. C'est sur la butte, en face de notre maison, j'ai vu passer la première saison. J'allais compter jusqu'à 180 pendant que les autres allaient se cacher dans le foin. Quand je me traînais sur le ventre pour voir l'autre bord, les deux oreilles à pic comme un renard, c'est que mon grand-père Richard avait demandé « Les gardes-pêche sont-ils bien dans la baie? » La première fille qui m'a montré le pôle Nord, c'est sur la butte, mais cette fois-là, l'autre bord, dans une cabane en face du grand plein chier, où ce que les sœurs allaient se déshabiller. C'est sur la butte que j'ai appris les noms en même temps qu'à démêler les maisons, montrer de quel bord était l'étendue du Nord, où ce que j'irais quand je serais grand et fort. Moi qui avais des belles îles, des buttes et des sillons, me voilà maintenant perdu en ville, tout seul dans ces millions. Je vis sur les autobus et au Pizza King du coin. Les gens me parlent pas plus que si j'étais un chien. Une chance qu'il y a toi qui m'aime assez pour m'endurer. C'est comme pendant le carême quand je volais des candies. Je me considère lucky d'avoir ma Rosalie. La vie est polluée, mais l'air est pur dans mon lit. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Je suis naufragé en ville, chez une bande d'inconnus. Rosalie, t'es tranquille, puis tu chantonnes même plus. Je travaille pour pas grand-chose, on vieillit comme des fleurs. Nos seuls bouquets de roses, une lettre du facteur. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on s'en retournera d'où ce qu'on vient.
Ah!
Avec hommage à Texte de corps.
Ben oui, le poème qui a été chanté, évidemment.
Texte de corps a chanté les mots
de Georges.
De Georges.
Oui, c'est ça. Texte l'a mis en musique, je pense, dans 72 langues. Et il a fait fortune, je pense.
Ah, bon, ben merci pour ce merveilleux.
Ben merci à toi, merci à tout le monde pour cette tribune extraordinaire que j'ai eue tout l'été.
Et oui.
Et ben, je vous attends tous aux îles de la Madeleine, sur la butte.
Ah, c'est magnifique, on va aller te voir. Et d'ailleurs, je sais que t'es tellement occupé parce que t'as tellement de choses à faire à Montréal, dans cette ville folle.
Oui, il me reste quelques produits, là, au marché Jean-Talon.
Que tu dois nous quitter pour aller acheter ta terrine.
Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, on te laisse aller, puis ça fut un plaisir.
Ben, merci beaucoup.
De te voir en chair et en os.
Merci Benjamin.
T'es toujours aussi beau.
Merci toi aussi.
Donc, je me retourne aussi devant nos comparses parce qu'on fait notre revue de presse habituelle cette semaine. Il y a des choses qui vous ont frappé dans l'actualité, peut-être, Marc, si tu veux commencer?
Oui, ben en fait, je pense que la politique municipale aura été un peu le sujet principal de la saison. Bon, on comprendra avec ce qui s'est passé la dernière année, les élections à venir. Deux choses que j'aimerais souligner. D'abord, c'était peut-être pas une surprise pour les gens de la région de Toronto, mais en tout cas, c'est sorti dans les médias dans la dernière semaine, c'est-à-dire la candidature probable, c'est pas encore annoncé, mais on peut envisager que ce sera le cas de, j'espère que je vais pas massacrer son nom, là, Olivia Chow, enfin la veuve de Jack Layton, qui s'était d'ailleurs démarqué comme, je crois qu'il avait été conseillère municipale déjà, ou enfin, dans peu importe la législature où elle avait travaillé, que c'était démarqué par son pragmatisme, sa facilité à créer des coalitions pour vraiment adresser des enjeux sociaux, vraiment sur le terrain. Donc, elle se présenterait contre le superlatif Rob Ford, et elle serait d'ailleurs déjà en avance dans les sondages. Donc, à mon sens, ce serait certainement une renaissance pour la politique municipale à Toronto, puis peut-être l'avenue d'un nouvel esprit dans la plus grande ville canadienne. Donc, on leur souhaite, en fait. Puis, en termes de politique municipale à Montréal, ben il y avait en fait de mercredi à dimanche l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde, et il y avait un premier débat en fait entre quatre candidats à la mairie vendredi dernier. Donc on a eu un peu un avant-goût de la campagne électorale à venir, des acteurs impliqués, puis des idées aussi qui vont être mises de l'avant. Donc si pour les gens qui l'ont pas écouté, je peux faire un résumé rapide. Mon appréciation personnelle, c'est que on peut être quand même un peu déçu là du ton qu'il y avait, qui était quand même assez conventionnel, des idées politiciennes qui étaient mises de l'avant, puis il y a aussi lieu peut-être de se questionner, parce que on y reviendra, de toute façon, je vais pas faire une synthèse de ça en revue de presse, mais l'espèce de distanciation qu'exemple Coderre puis d'autres aussi veulent faire, de dire que non, on est en politique municipale, on veut pas de politique en termes de chicane ou de parti, on veut de la bonne gestion et de la bonne administration. Je me questionne par rapport à ça, parce que je veux dire, c'est bien de bien gérer les deniers publics, mais au travers de l'idée de vouloir sortir de la partisanerie, puis bon, on peut se demander c'est quoi la différence entre un parti, une bannière ou une coalition, qui était évidemment l'enjeu métaphysique de la rencontre de ces grands esprits. Plutôt, où sont les espaces démocratiques? Tu sais, je veux dire, l'idée, c'est peut-être, je sais pas si c'est un débat stérile ou pas, là, de dire on veut opposer administration à démocratie. Moi, ma principale préoccupation, c'est de vouloir plus de démocratie.
dans la politique municipale, et je me demande en fait où sont les idées porteuses par rapport à ça. Donc ce sera à voir pour les prochaines semaines et les prochains mois. J'étais pas transporté.
Bon, mais on va suivre ça. Débat aussi auquel Michel Brûlé n'a pas pu assister parce qu'il n'a pas pu inviter et envoyer une mise en demeure.
En fait, il lui assistait, mais oui, il participait pas au débat.
Merci de me corriger. Mais en tout cas, on va suivre ça encore, hein, politique municipale. 3 novembre, les élections. En attendant, on va recevoir dans quelques instants Mme Élodie Comtois, qui va venir nous parler de la rentrée littéraire à Montréal. Donc, on retrouve Madame Élodie Comtois. Elle n'aime pas quand je l'appelle comme ça, mais c'est chic, madame. On ne peut pas dire mademoiselle de nos jours, d'ailleurs.
Non, effectivement, c'est très chic. Merci. Bon, merci pour
d'accord.
Cette considération.
Élodie Comtois, donc, qui travaille à Éco-Société. Et là, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'en vient dans le domaine littéraire. J'ai dit à Montréal, mais au Québec, là.
Oui, là, je vais vous parler de la rentrée littéraire des petits éditeurs québécois, on va dire. J'ai vraiment, encore une fois, un a priori favorable envers les petites maisons. Par contre, là, pour clore le conflit d'intérêts, je ne parlerai pas des titres d'éco-société. Je vous épargne la chose. Je vais commencer tout de suite avec la partie plus essai politique. Je vais donner la place aux éditions du Remue-Ménage, maison d'édition féministe depuis plus de 30 ans, créée à Montréal, qui commence avec le titre « Les femmes changent la lutte au cœur du printemps québécois », dirigé par Marie-Ève Surprenant et Mylène Bigaouette, avec une préface de Micheline Dumont. C'est une volonté de donner la place à tous les enjeux féministes qui ont été soulevés pendant la grève, à toutes les luttes qui ont été portées par les femmes, et toutes ces, que ce soit les femmes de la classe, la FEC, Fermaille, la FEUC, Mayapart, etc. Voilà, ça promet d'être très intéressant. C'est 30 contributions sur cette question-là. Ensuite, il faut dire aussi que Martine Delvaux, qui est une romancière bien connue chez Héliotrope, signe son premier livre chez Remue Ménage avec le livre « Les filles en série, des Barbies aux fémines ». Alors, ça promet, rien qu'au titre. Ça sera le 23 octobre en librairie. Également souligner le titre « Les désirantes » qui se veut un ouvrage qui explore différentes figures contemporaines de femmes et qui veut explorer un petit peu la question des conceptions plus dominantes du désir et de la sexualité pour fouiller notre imaginaire colonisé par des textes, des images stéréotypées, on va dire. Donc, essayer de déconstruire et de réinventer l'érotisme à travers toute une analyse de l'art et de la littérature. Donc, ça promet aussi d'être très intéressant. Pour finir, n'oubliez pas d'acheter votre agenda des femmes 2014, l'année chaude. Agenda cochon pour féministes seulement, c'est tel qu'ils l'annoncent dans leur programme, avec des récits, des créations de Marie-Célie Agnan, Nicole Brassard, Martine Delvaux, Catherine Lalonde, et j'en passe. Et pour finir aussi, un titre fragment d'Hélène Pen avec différentes conversations imaginées avec la militante féministe et environnementaliste Hélène Penneau, qui vont croiser plusieurs textes, que ça aille de Marie-France Bazot à Nicole Brossard, à Jean-Martin Aussan, Serge Bouchard, Gilles Duceppe ou encore Paul Pelletier. Donc vraiment un florilège. C'est comme s'ils imaginaient une conversation avec Hélène Penneau
qui est décédée
ouais. Et donc les sujets dont on parlerait aujourd'hui avec elle. Donc voilà.
D'accord.
Voilà pour Remue Ménage. Chez Lux Éditeur, maintenant petit, pas si petit, éditeur d'essai, il y a un retour encore sur la grève étudiante avec nouveau livre de Gabriel Nadeau-Dubois, Tenir tête, qui sera en librairie le 10 octobre.
C'est pas Grosse tête, plutôt?
Non.
Ah, désolé, c'était facile.
Donc il revient sur ses rencontres, sur ses analyses, ses explications, les leçons de la grève. Également à signaler À force d'imagination, l'affiche du mouvement étudiant de 1957 à 2012. Donc, un beau livre avec une archive vraiment forte dirigée par David Widgington et Jean-Pierre Boyer. Ça risque d'être fort intéressant. Après-demain sortira dans la collection Lettres libres, le livre de Simon Tremblay-Pépin, qu'on connaît bien comme chercheur à l'IRIS. Son livre « Illusion, petit manuel pour une critique des médias », on a vraiment hâte de lire, vraiment, vraiment. Aussi, « Un peu de sang avant la guerre » de Jean-François Nadeau, dans la même même collection Lettres libres, donc un recueil d'essais qui sont un peu l'appétit contemporain pour la guerre, mais aussi avec une pointe d'espoir. Alors voilà. Suivra également la grande saignée, La finance va nous faucher, Fauchon, la finance, de François Morin, économiste, qui donc va tenter de répondre à la question que fera, en fait, que se passera-t-il quand l'économie européenne s'effondrera et que le capitalisme financier bouleversera l'économie mondiale.
Parfait. T'as pas un petit livre d'Éric Duhem là-dedans, là?
Ben non, désolé. Ah, vous savez.
C'est pas écrit.
Pour finir, je soulignerai aussi le 22 août, donc cette semaine, la sortie de l'anthologie de la revue Parti pris pour les 50 ans de sa fondation. Donc c'est Jacques Pelletier qui a rassemblé les textes de différents auteurs qui ont participé tout le long de l'aventure Parti pris. Alors on y retrouvera des textes de Miron, Va de bon cœur, Aquin, Godin, Ferretti et bien d'autres. Ensuite, soulignant aussi dans la collection Humanité, qui est plus une collection de théories sociales, Dans les ruines de l'université, de Bill Readings, donc on poursuit la réflexion sur l'université, et Le marxisme anglo-saxon, figure contemporaine, de Perry Anderson à David McNally, sous la direction de Jonathan Martineau. Voilà pour Lux, donc maison d'édition qui fait dans la critique sociale, l'anarchisme et l'histoire. Histoire aussi, n'oublions pas Septentrion, qui sert toujours les amateurs d'histoire du Québec. Je citerai trois titres. 1763, le traité de Paris bouleverse l'Amérique, qui sera dirigé par Denis Vaugeois, Sophie Imbeau et Laurent Vessière, en librairie le 8 octobre. Hydro-Québec et l'État québécois, de 1944 à 2005. Ce sera certainement intéressant de voir l'évolution de cette institution. Et enfin, le téléroman québécois entre modernité et post-modernité. Alors voilà pour d'accord. les essais, un petit aperçu rapide. Pour la littérature, je ne peux pas ne pas souligner les 10 ans de l'éditeur Le Cartanier, qui continue de nous faire connaître de nouveaux auteurs québécois talentueux, avec leur univers tantôt déjanté, profond, décalé, qui commence dès aujourd'hui avec la sortie de Pourquoi Bologne, d'Alain Farah, qui revient, en fait, c'est un peu un roman paranoïaque, labyrinthique, drôle, sur la mémoire, la folie, les dédoublements. En fait, le roman part de la découverte des expériences de déprogrammation et de manipulation qu'a pratiqué le docteur Cameron sur des patients à McGill dans les années 50 et 60. Ça promet. Aussi souligné Pomme S d'Éric Plamondon, qui parle de l'histoire de l'informatique, de la vie de Steve Jobs, mais aussi de la filiation, du LSD, de l'Amérique et de ses mythes. Encore un grand roman de cet auteur qui a déjà fait ses preuves au Cartanier. Et en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Cartanier, pour ses 10 ans, va créer une série, la série Nova, c'est-à-dire 10 nouvelles de 10 auteurs différents de la maison, dont 7 inédites. Et là, on retrouvera Samuel Archibald, Alexis Morin, Raymond Bock, David Turgeon, Éric Plamondon également, Patrick Roy, Sophie Letourneau qui nous a donné Chansons françaises. Et ça sera le 29 octobre. Alors, les maquettes, j'ai eu la chance de les voir. Elles sont absolument sublimes. Ça va être un coffret où elles pourront aussi se vendre séparément, mais ça va être un objet merveilleux. Le Cartanier fait toujours des très beaux livres et là, il nous en envoie encore plein la vue.
Bon, ben c'est super. On va prendre toutes ces suggestions-là.
C'est déjà fini. C'est pas possible.
Ah, 8 minutes, ça passe tellement vite.
Ah,
hein.
C'est comme la vie. C'est pas possible. Ben alors, donc, je vais faire mes excuses à Mémoire d'Encrier, La Peuplade, Loi de Cravant et Hamac, et je remettrai leurs titres sur le Facebook parce que...
Parfait. Ben on les embrasse. Élodie, Comtois, ce fut un plaisir que tu sois parmi nous durant cet été. Donc, on se retrouve dans quelques instants, mais d'ailleurs, on va laisser Yolaine Maudet arriver pour nous présenter Jason Bajada, qui vient ici pour faire une prestation. Donc, il s'assoit, il s'installe, hein, on fait ça...
Dieu, quelle transition!
Quelle transition, comme ça!
Sans transition aucune!
Comment ça va, Yolaine?
Ça va bien, toi,
Benjamin? Ben oui, toujours, donc, tu travailles pour le blog Neuf Bulles dans le ciel et Longueur d'onde aussi. Ouais. Donc, c'est toi qui a eu cette charmante idée d'inviter Jason Bajada à venir à l'émission.
Oui, tout à fait. Jason Bajada, qui est quand même connu... de la scène montréalaise, québécoise, canadienne, même au-delà. Mm-hmm. Il avait signé plusieurs albums avant en anglais, dont notamment Love Sheet et The Sound Your Life Makes, Puis il revient cette fois-ci en force et en français sous l'étiquette Audiogramme. Il faut attendre le 24 septembre avant de voir le résultat de ses bêtises. C'est le nom de son album.
Okay.
Pour l'instant, on peut toujours entendre le single en radio qui s'appelle Armée de Montgolfière, avec une contribution, je crois, de Peter Peter. Et donc, Jason, je ne sais pas ce que tu vas nous interpréter. Comme,
ben, désolé là, de l'installation
ouais,
comme ça. Ça va bien?
Très bien, merci.
Ben oui, ben merci beaucoup de votre présence. Et vous allez nous jouer quoi aujourd'hui?
Ben justement, je vais faire Armée de Montgolfière.
Ça tombe très bien.
Bon, ben on écoute ça.
Le soleil sur le point d'éclore est une éponge suppliant qu'on les sort. Nous maquillons les morsures d'hier. Nos parachutes nous suivent derrière. Et traînent nos armes qui ne servent plus à rien. Qu'enflons nos têtes pleines d'air comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vu d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo, l'or porte conseil malgré une nuit sans sommeil. Nous sommes prêts pour le concert. Guérira nos cancers. Nos yeux franchissent l'horizon. Qu'importe l'angle vers lequel nous penchons. Nous ne buvons pas ce qui étanche. Nous sommes coureurs de courte distance. Nous sommes coureurs de courte distance. Gonflons nos têtes pleines d'air comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. Gonflons nos têtes pleines d'air comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. L'or porte conseil, malgré une nuit sans sommeil. Nous sommes prêts pour le concert, qui guérira nos cancers. Qui guérira nos cancers. Nous sommes prêts pour le concert, qui guérira nos cancers. Qui guérira nos cancers.
Jason, on va se retrouver un peu plus tard oui, en deuxième partie d'émission pour une autre chanson, puis on va avoir le temps de se parler. Merci beaucoup de ta présence. Hubert, tu nous as préparé quelque chose aujourd'hui. Hein? Je t'ai mandaté pour nous faire un petit spécial rentrée.
Ouais, ben c'est ça. Élodie a parlé de la rentrée littéraire.
Oui.
Moi, j'ai parlé de la rentrée scolaire. C'est pas tout de suite là. C'est dans quelques semaines.
Ah, mais les publicités sont déjà lancées hein, sur ouais. À la télévision. On voit comment que tout le monde peut acheter ses effets scolaires chez Walmart.
C'est ça. Avec la maman hystérique qui tape
voilà.
Dans la main de ses enfants.
Et
c'est
voilà.
Magnifique. Ça donne le goût de dépenser. C'est ça. Donc, mais cette année, j'avais plus l'intention de vous parler de la rentrée universitaire. Donc, c'est la première rentrée universitaire depuis que le PQ a remplacé la hausse des frais de scolarité par un gel indexé au coût de la vie. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas comment un gel peut être indexé, ben il paraît que c'est à cause du réchauffement climatique. Là, la notion de gel est toute perturbée.
Oh, c'est songé, ça.
C'est très songé,
ah, oui.
C'est Pauline. Hein, Donc, j'ai bien hâte de voir si les étudiants qui étaient pour la hausse vont essayer de faire la grève pour s'opposer à l'abolition de la hausse qu'ils revendiquaient. Donc, on verra, comme disait l'autre charismatique. Puis, s'ils veulent pas se mobiliser pour défendre leur position, ben, je leur suggère tout simplement de donner l'équivalent de la hausse que voulait instaurer le PLQ à la fondation de leur université, que ce soit pour payer les bonus des recteurs ou encore la construction à grand prix des pavillons satellites dont on n'a pas vraiment besoin. Donc, oui, c'était possible depuis longtemps de donner de l'argent alors, à nos universités. Si tu veux que tu as les moyens, tu peux le faire sans écœurer ceux qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Donc, allez
c'est
voir
dit.
Les sites Internet de toutes les universités du Québec. Mais revenons à la rentrée, plus précisément à l'Université de Montréal. Donc, le recteur invite les étudiants de la première cohorte, de première année, à la première journée, il les invite à déjeuner avec lui, donc manière de s'assurer qu'ils vont avoir un bon repas dans l'année. Puis à cause du déjeuner, ben, les cours débuteront pas à 8h30, mais bien à 9h.
Oh.
Donc, je sais pas s'il va y avoir des injonctions d'étudiants qui vont se plaindre qu'ils n'ont pas eu tout l'enseignement qu'ils ont payé. Donc, ça reste à voir. Puis bon, pendant le déjeuner, le charmant recteur, il fera tirer 2 bourses d'études pour couvrir les frais de scolarité. Donc, maintenant, c'est Lazare qui décide si tu as les moyens d'aller à l'université. Donc, je sais pas si c'est un partenariat avec l'Auto-Québec. On verra. Peut-être qu'on pourra boire dans les classes, comme on pourra boire au casino.
Ah, c'est...
Donc, mais bon, on parle de partenariat comme ça. Puis je sais que Benjamin, mais toi, t'es un peu tanné que je vais juste souligner ce qui va mal. Puis tu veux qu'on amène des solutions.
C'est vrai. Je trouve qu'il y a trop de chialeux, mais il n'y a pas assez de gens proactifs là, pour nous sortir du guépier dans lequel on est. Là.
Exactement. Donc, j'arrive avec plein de solutions.
Enfin.
Donc, à vos carnets. Parmi les possibilités, là, vraiment plein de partenariats avec le privé à explorer. La faculté de théologie et de sciences des religions devrait s'associer avec Apple puis créer un cours sur Steve Jobs, le nouveau messie réincarné dans la peau de Ashton Kutcher. Donc, les cours pourraient éventuellement être disponibles sur iTunes, donc ont une source de revenus supplémentaires. Les départements de littérature pourraient devenir le département Renaud-Bray. On pourrait mettre en place tout un volet d'études qui porterait sur les jeux pour enfants puis les articles de décoration. Ou pourquoi pas commencer à faire de l'analyse littéraire de livres de recettes. le département de cinéma pourrait devenir le département d'études du blockbuster Vincent Guzzo. Fait que housse les cours qui abordent le cinéma québécois ou n'importe quel cinéma national, puis housse le documentaire, puis housse, vous avez compris le principe. Les étudiants qui pourraient payer plus cher, il y a des étudiants qui pourraient payer plus cher pour avoir accès à des sièges D-Box, qui bougera en fonction du PowerPoint du prof. Puis le PowerPoint aussi pourrait être en 3D, moyennant des frais supplémentaires pour les lunettes. Ça serait excellent. Sinon, une autre association avec le privé possible, la faculté de pharmacie pourrait devenir la faculté sans dose. Quoi qu'ils sont aussi à leur habitude en matière d'approvisionnement en médicaments, il y a peut-être plusieurs cours qui seraient back-order. Ça, pour économiser, il faut absolument élaguer l'offre de programme. Donc, pour plusieurs raisons, certains programmes sont devenus carrément inutiles. Pourquoi un département de géographie depuis l'invention du GPS puis de Google Maps?
Bonne question.
Pourquoi un département de traduction alors que le site Reverso fait clairement la job? Je pense qu'il n'y a personne qui a été choqué par les lettres en français envoyées par MMA. Sinon, je pense que ça ne dérangerait vraiment pas si on éliminait le département d'urbanisme. Quand on regarde comment se développent les villes au Québec, on voit que ça ne sert à rien. Pour faire économiser le gouvernement provincial, je pense qu'il y a moyen de céder tous les départements d'histoire au bon jugement du fédéral avec Stephen Harper. Le travail final, ça pourrait consister à demander aux étudiants de proposer une nouvelle relecture de l'histoire canadienne ou scénariser des nouvelles minutes du patrimoine canadien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Plein d'autres solutions à envisager. Faisons en sorte que chaque étudiant qui étudie en gestion soit coté en bourse. La valeur d'étudiant deviendrait relative à ses performances. Puis éventuellement, si les actionnaires sont pas satisfaits du rendement de l'étudiant, mais ils pourraient procéder à des restructurations, mettre l'étudiant dans un appartement plus petit, diminuer ses loisirs, remplacer son alimentation par uniquement du macaroni au fromage en poudre jaune. Puis ça permettrait aussi aux étudiants en gestion de comprendre c'est quoi la réalité des travailleurs qui sont à merci des actionnaires. Donc, on jumelle le plaisir avec le plaisir. Dans un autre ordre d'idée, pourquoi on relocaliserait pas certains départements moins rentables dans des pays que ça coûterait vraiment moins cher? Donc, au lieu d'ouvrir des pavillons satellites de l'Université de Montréal à Laval ou l'Université de Sherbrooke à Longueuil, ouvrons des pavillons au Bangladesh.
Ben, c'est des bonnes idées, mais tu t'en vas où avec ça? Je suis sûr que tu t'en vas quelque part, non?
Ben...
Attends, tu y vas tout de suite, là.
T'es en train de me dire que le temps file. c'est bien. OK, j'ai passé ma réforme du cégep, puis tout ça. Puis dans la dernière année, puis dans les dernières minutes, on a beaucoup parlé des coûts qui étaient liés à l'université, mais oui. Je vous amène aux coûts qui sont parfois très élevés pour envoyer un enfant à l'école primaire et secondaire publique.
Oui.
Donc, cette semaine, il y a plusieurs articles, reportages qui expliquaient que ça coûtait de plus en plus cher aux familles. Fait que je vais laisser Jean-Luc Mongrain expliquer la situation. Je pense qu'il le fait beaucoup mieux que moi avec toute... la bonne amie.
Laisse le maître parler, puis on va l'écouter. Et tout de suite après, on va passer aux publicités. Et on va se retrouver donc avec les réalisateurs du film Carré Rouge, Santiago Bertolino et Hugo Sanson. Donc, on écoute l'extrait et on passe en publicité.
Première année, liste d'épicerie et de commandes. L'éducation et l'instruction, c'est gratuit. Dites-moi s'il n'y a pas quelqu'un de débranché dans la vie. Ça, c'est la liste d'achats pour une enfant qui rentre en première année. 8,5-14, 2 bords. 100 piastres à peu près par personne. Des crayons. Feutre. Couleur 36 crayons-là. Et de cire. Et amine 36. Excusez-moi, ça, c'est des étiquettes parce que, ben oui, le génie a poussé à identifier chacun des crayons. C'est écrit sur la liste. Veuillez identifier tous les effets et tous les crayons, un par un, au nom de votre enfant. Y a-t-il quelqu'un qui travaille dans les commissions scolaires, dans les écoles? Les parents travaillent, eux autres. Minette, j'ai pas fini, là. J'ai quand même. D'autres crayons. Amine. Écoute, il y en a 12 par paquet, ça en prend 36. Un autre crayon feu, première année, là. Un crayon marqueur jaune, première année. Tu sais pas écrire papa maman encore, là. Fait qu'étant donné que tu sais pas écrire des effaces, t'en veux-tu? 5 que ça en prend. C'est sa liste. 5 effaces. Y a-tu quelqu'un qui a pas de jugement quelque part, là, qui a pas été à l'école? Qu'est-ce qui est arrivé? Trop longtemps. Pour moi, ils ont été trop longtemps à l'école. C'est ça qui arrive. Quand tu vas trop longtemps à l'école, moi, quand j'ai été longtemps à l'école puis j'étais à l'université, j'avais pas des grands yeux, parce que j'avais la tête grosse de même. Fait que c'était proportionnel. Quand t'as la tête enflée, c'est sûr que...
Pour animer la société à Montréal, CIBL 101.5.
Les 24 et 25 août sur la rue Sainte-Catherine-Est, c'est le Grand Débarras, un événement qui célèbre la consommation responsable avec, entre autres, une foire commerciale avec notamment des éco-créateurs québécois, un encan mené par le porte-parole MC Gilles, un spectacle de qualité motel et un défilé de mode 100% naturel. CIBL y présentera une émission spéciale le samedi 24 août de midi à 14h. Le Grand Débarras, les 24 et 25 août sur la rue Sainte-Catherine-Est, entre Pinneuf et Bennett. Une présentation des promenades Hochelaga-Maisonneuve.
Avec la carte Accès Montréal, vivez votre ville en exclusivité. Sorties, loisirs, sports, festivals, c'est le moment de profiter de ce que Montréal a de meilleur à offrir. Pour seulement 8 $, la carte Accès Montréal donne accès à des privilèges, des réductions sur de nombreux services et sur l'événement de l'été, les mosaïques cultures du Jardin botanique. N'attendez plus, abonnez-vous. ville.montréal.qc.ca/carte-accès-mtl.
Avec Christiane Campagna, vous saurez tout de l'actualité trad, les spectacles à voir, les plus récentes parutions et les nouvelles de l'année sur les médias sociaux.
Avec Marc Bolduc, vous allez voyager dans l'histoire de la musique traditionnelle, redécouvrir des musiciens oubliés, des enregistrements méconnus, classiques ou bizarres.
Ensemble, nous vous invitons à explorer toutes les couleurs de la tradosphère.
Tradosphère, votre rendez-vous avec la tradition québécoise, mardi de 20h30 à 22h sur CIBL 101.5 Montréal.
Pour animer l'été à Montréal. CIBL 101.5.
De retour aux étés généraux, Benjamin Hogg toujours au micro. Et j'ai coupé un peu trop vite Hubert Sabineau. Il a réclamé, il a fait une grève pendant la pause. Il veut dire quelques mots.
Ouais, sinon, je vais boycotter l'émission. Ben, je vais juste revenir parce que ça fait un peu bizarre de finir comme ça, mais je voulais juste dire que ma solution à ces listes de fournitures interminables serait de remplacer tous les articles scolaires par un iPad qui serait éventuellement brisé dans les deux semaines qui suivent, bien sûr. Non, mais plus sérieusement, informez-vous auprès des commissions scolaires. Il existe plein de programmes pour les familles dans le besoin pour aider à l'achat des trucs pour les enfants. Puis sinon aussi, plus largement, arrêtez de vous endetter pour envoyer vos enfants au privé, puis respectez les professeurs qui gagnent moins cher que les polices, mais qui s'occupent mieux de vos enfants.
Vive le public! Bon, c'est dit. On reçoit maintenant, on a la chance de recevoir les réalisateurs du film Carré Rouge.
Sur fond noir.
Sur fond noir, il ne faut pas oublier, hein, parce que j'ai vu que certains... Télé-Québec avait oublié, on dirait. Mais donc, on reçoit les réalisateurs Santiago Bertolino et Hugo Sanson qui donc ont réalisé le film. Comment ça va?
Ça va très bien.
Donc, on est très, très content.
Bonjour.
Bonjour. On est content de vous recevoir à l'émission. Donc, tout un parcours, hein, ce film. Donc, tout un mouvement étudiant aussi. Ça a été toute une aventure. Et j'ai visionné le film. qui est fort intéressant d'ailleurs. Et je me demandais donc comment avez-vous fait pour vous intégrer à ce point-là ou justement avoir une entrée aussi privilégiée aux associations étudiantes que vous suivez dans ce film-là? Parce que c'est quand même, vous êtes proche par exemple de Gabriel Nadeau-Dubois ou d'autres membres du groupe. C'est quand même assez fascinant. Vous avez réussi comment ce tour de force?
Ouais, ça n'a pas été nécessairement évident, mais surtout si on fait un... Mais ce qu'il faut dire, c'est que, en tout cas, moi, personnellement, ça fait comme une quinzaine d'années que je fais du cinéma qu'on dit engagé ou à caractère sociopolitique. Donc, je faisais beaucoup de courts-métrages, des courts-métrages sur les luttes citoyennes. Donc, je suis assez proche des milieux militants et tout ça. Et puis Hugo, lui... Il était étudiant au Cégep du Vieux-Montréal.
Non, j'étais étudiant au Cégep Saint-Laurent. Non, c'est pas grave. Oui, j'étais étudiant à cette époque-là. Donc, moi aussi, j'étais proche de ces milieux. Les associations étudiantes et tout. Ça fait déjà... ça faisait déjà un an que je savais qu'il y avait une grève qui approchait. Santiago aussi, probablement. Parce que tous les deux, on vient un peu du milieu militant aussi.
Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est ça. Donc là, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un film sur le mouvement étudiant. Je m'intéressais à l'AC, justement parce que je m'intéressais beaucoup à leur fonctionnement de mode horizontal, de démocratie directe, parce que justement, il n'y a pas de chef, c'est plus des porte-paroles qui sont redevables aux assemblées générales et tout ça. Puis là, on voyait que, là, en novembre, il y avait une grosse manifestation, 30 000 étudiants. Depuis un an et demi, deux ans, dans les associations étudiantes, faisaient beaucoup de mobilisations pour protester contre... Tu sais, il y a eu un crescendo avant d'arriver à la lutte, avant d'arriver au 22 mars, où est-ce que les étudiants faisaient de la mob dans les écoles pour militer contre la hausse des frais de scolarité, mais le gouvernement bougeait pas. Puis là, moi, je voulais faire un film un peu plus long. Puis que ce que je faisais d'habitude, je voulais suivre des personnages, tout ça. Puis je sentais que le mouvement étudiant allait prendre une certaine ampleur. Puis là, dès le mois de janvier, on a commencé à approcher, Hugo et moi, les associations étudiantes, le Cégep du Vieux-Montréal. On est allé approcher aussi la classe. Puis tranquillement, de janvier au mois de mars, on a commencé à demander des permissions pour aller filmer dans les étudiantes et tout ça. Puis on a commencé à... On faisait notre recherche avec notre caméra parce qu'on est nous-mêmes caméraman et réalisateur et preneur de son aussi. Puis donc c'est une confiance qui se construit graduellement au début. On dit OK, vous pouvez filmer les assemblées générales. Là on filme puis là au fil du temps ils voient qu'on coule pas l'information. C'est surtout aussi le fait qu'on leur disait qu'on fait un film qui va être diffusé plus tard, comme dans un an.
C'est ça, donc parce qu'il était moins craintif.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, parce qu'ils avaient peur qu'on influence le cours du réel présent.
Mm-hmm. Oui.
Parce qu'on filmait comme des stratégies, des choses.
D'accord.
Comme ça.
D'accord. Ouais. Hugo, tu rajoutes quelque chose?
Oui, il faut comprendre qu'on n'a pas le même mandat que les médias traditionnels. Par exemple, on a suivi le mouvement pendant presque un an, avec beaucoup de recul. Bon, ils savaient que... Puis au début, les assemblées générales, la majorité du temps refusent les médias. Dans la classe, les gens votaient qu'on n'était pas des médias, mais des artistes.
C'est ça, ils vous ont accepté.
Mais ça me fait d'aller filmer le congrès.
Quand je voyais la question, c'est justement peut-être c'est l'avantage et le risque parce que est-ce qu'il y a aussi un risque à se dire bon, ils nous ont accepté, on ne peut pas les dépeindre de manière négative. Donc, est-ce que vous avez eu une espèce d'autocensure pour pas, par exemple, faire mal paraître un leader étudiant, etc.? Est-ce que vous êtes posé la question durant le montage?
Au contraire, nous, on trouvait intéressant d'avoir un message critique, même à l'intérieur du
D'accord.
mouvement. C'est ça qui fait qu'un mouvement est sain. Et c'est ça que je pense que les militants étudiants ont compris. On ne s'est jamais fait censurer non plus dans les assemblées générales, sauf peut-être pour des raisons juridiques.
Mm-hmm.
On ne nous a jamais empêché de filmer quelle conversation que ce soit, quelle proposition ou débat pendant les congrès, pendant les assemblées générales, pendant l'exécutif de la classe aussi.
Donc c'est pour ça que...
Peut-être qu'il y avait la forme de censure qu'ils pourraient avoir, c'est eux-mêmes en choisissant les instances auxquelles on a le droit de filmer. On avait le droit de filmer les exécutifs, mais par exemple, en même temps, on n'aurait pas voulu filmer ça. Il y avait aussi des comités plus sur la stratégie des manifactions, par exemple. Où est-ce que là, on aurait pu dévoiler où aurait lieu la prochaine action? Bon, cette affaire-là, on n'avait pas le droit de filmer. Mais sinon, dans les instances qui ont choisi, le comité de mobilisation ou le comité ou l'exécutif, là, on avait un accès complètement ouvert. Puis ils ont un souci quand même de transparence. Ils veulent montrer qu'ils sont plus transparents, peut-être, mm-hmm. que les autres fédérations, les choses choses comme ça. Puis donc ça, on,
ça vous
au
avez
contraire, on pouvait, ouais, on avait accès comme on pouvait.
Puis vous avez, vous êtes vraiment, vous avez été proche du mouvement et donc très proche, même on le voit dans le film, jusqu'à prendre des risques aussi parce que les gens qui ont été militants ont pris beaucoup de risques. Est-ce que vous avez, par exemple, Hugo, est-ce que vous avez eu t'as eu peur à certains moments parce que quand la police rentre, elle ne rentre pas, elle ne fait pas de dentelle hein, finalement.
Oui, il y a des plans où bon, le trois quarts du temps ou 60% du temps, je faisais la caméra, le reste du temps, je faisais le son et ainsi de suite. Moi, Santiago, des fois, on s'est changé. Mais il y a des temps où ce que je faisais la caméra, il venait d'avoir une charge policière ou quelque chose qui arrivait, puis j'étais beaucoup moins stable. Hein, c'est de la caméra à l'épaule. Donc, ça nous arrivait de se mettre à shaker. Là. Puis on a des petits plans qui tremblotent juste après la charge la charge policière, mettons, au plan nord. Ben, là, j'étais pas très, très stable.
Santiago, tu t'es fait arrêter, je crois aussi.
Non, c'est Hugo. C'est moi qui ai fait arrêter discret là-dessus. Je sais pas.
Non, ça va. Ouais, ben la majorité du temps quand on filme, on a une certaine, c'est plus prudent quand même avec la caméra, une certaine immunité. Mm-hmm. Les policiers frappent pas nécessairement les caméramans, c'est pas leur premier réflexe. Mais
tu peux raconter par exemple le cégep du Vieux-Montréal, c'est ce qui est arrivé. Hugo, il était. Moi, je prenais le son, tout ça, puis Hugo, il était vraiment... Il, au Cégep du Montréal, il était en train de filmer depuis le matin, puis il était en train de filmer comme toutes les assemblées qui menaient... c'est le moment où est-ce que le Cégep du Montréal voulait carrément faire une occupation à l'intérieur du Cégep, les étudiants, parce que l'administration voulait fermer le Cégep aux étudiants, puis avoir accès au Cégep, c'est vraiment important en temps de grève, parce que c'est le lieu de rassemblement. Donc, c'était un enjeu vraiment important.
C'est le lieu d'organisation pour les assemblées générales aussi, pour organiser toute la grève.
Donc là, Hugo filmait l'assemblée de proche, il y avait vraiment une grosse atmosphère... très dense, ou est-ce qu'on occupe, est-ce qu'on occupe pas, est-ce qu'on fait une barricade ou pas. Puis là, Hugo, il filmait ça, puis tout à coup, il était vraiment emballé par le sujet. Puis là, à un moment donné, au début, il était 300 personnes à vouloir occuper le cégep, puis à la fin, moi, je le voyais un peu de l'extérieur, il restait 20 personnes. Mm-hmm. Mais Hugo, il avait un plan séquence extraordinaire, donc il se rendait plus compte qu'il allait se faire arrêter. Moi, j'étais comme, Hugo, je pense qu'on devrait se séparer. Moi, je vais t'attendre dehors. Moi, je filmais avec ma caméra. Bon, moi, j'ai un enfant aussi, il faut que je choisisse. Puis, au pire, je pourrais continuer le film s'il est en prison. En tout cas, il a eu le courage, lui, de continuer. Puis, moi, j'étais dehors à la pluie, là, j'attendais qu'il sorte, puis finalement, il s'est fait arrêter.
Ouais, on m'a arrêté au même titre que les autres étudiants, en fait. On n'avait pas de carte de journaliste à cette époque-là. On n'a pas eu, d'ailleurs. Mm-hmm. Puis, on était 37 arrêtés, en fait. Donc, puis, il y avait d'autres personnes qui réussissaient à pas se faire arrêter. Il y avait une cinquantaine de personnes en tout.
Ouais. Donc, tu as pris part à l'action d'une manière...
J'étais participant. J'étais pas participant, j'étais spectateur.
C'est ça. Participant, spectateur, et oui.
Oui, avec la caméra. Bon, et oui. Évidemment, j'étais là, donc je faisais partie des occupants, en guillemets.
D'accord. Et c'est tout le temps qu'on a, mais le film va être présenté déjà lundi.
C'est l'avant-première.
L'avant-première au cinéma Excentrice.
Oui. Malheureusement, il n'y a déjà plus de billets.
D'accord.
Mais à partir du 30, il va être à l'Excentrice pour toute la semaine.
Et il va être aussi présenté à Télé-Québec, mais j'imagine qu'on souhaite que les gens aillent le voir au cinéma. Ça serait plus intéressant, peut-être.
Oui, bien, en cinéma, on a la version longue qui est vraiment bien. Puis à la télé, bon, il y a tout souvent des contraintes de temps, donc c'est une version. Mais on a quand même la chance, c'est quand même une version d'1h20 à la télé. C'est rare, d'habitude, on est obligé de faire un 52 minutes.
Effectivement.
Donc, je pense qu'on devrait quand même être... content. C'est juste que la version naturelle, elle faisait 1h50, celle qu'on trouvait qui faisait plus dans le dash. Là, puis...
Donc, ça va être... Oui, effectivement. Donc, pour aller voir la version qui fait dans le dash, ça va être au cinéma. Ben, je vous remercie, oui, messieurs, pour votre participation. C'était Santiago Bertolino et Hugo Sanson, les réalisateurs
merci.
Du documentaire Carré rouge sur fond noir. Merci.
Au revoir. C'est ça qu'on va faire.
Le lendemain, mais dans le soir, du moment, tu sais le cochon.
C'est ça qu'on va faire.
Vas-y, tu fous, ouais. Prends le cochon, puis fais attention, puis l'homme, la peau du cochon, puis le poudre, la peau du cochon, puis le bon dans le monde.
C'est ça qu'on va faire.
Hein? Il y a des domestiques avec des fusils qui viennent, avec tout le fusil à la main.
C'est ça qu'on va faire.
De retour en ondes, les réalisateurs du film notaient que c'était René Lucier là, qu'on entendait à l'instant, et c'est lui qui a fait aussi la bande sonore, qui a réalisé la bande sonore du film Carré rouge. Donc voilà, c'est dit. Donc, pour terminer l'émission, mais pas tout à fait terminée, là, on a le Baron Castor. Comment allez-vous, monsieur?
Ça va très bien, ça va très bien.
Ben
merci.
Oui. Donc, Baron Castor, c'est un être schizophrène qui fait parfois des textes un peu étranges. Et aujourd'hui, j'ai eu un avertissement comme quoi le texte allait peut-être être un peu dérangeant.
Oui, légèrement. Ben en fait, écoute, j'ai déjà parlé de mes différents degrés de création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait Marc Ouimet, il y avait le Baron Castor. Je trouvais que c'était pas assez. J'avais développé des degrés intermédiaires, tu sais, de Marc Castor puis Baron Ouimet. Écoute, moi, je prends l'inspiration comme elle vient, OK, selon les sujets et les états d'esprit. Et puis, ce texte-là m'est sorti d'un trait, dans un espèce d'élan inspiré, où c'est le baron qui parle, il y a un observateur qui parle du baron, il y a un observateur qui parle au baron, fait que j'ai arrêté de chercher à caractériser la chose, puis j'assume le texte comme il est... en lui-même, puis les multiples personnalités qui peuvent le porter. Et puis, c'est simplement une envolée sous l'esprit du moment. Donc, prenez une bière, fumez un bat.
Et le texte n'engage que son auteur.
Même pas.
Même pas? Bon,
non, parfait. Même pas. Bon, en fait, le baron s'engage à lui-même puis à rien d'autre. En cette fin de saison, le baron tient à exprimer tout son amour aux désaxés qui se donnent le luxe de penser hors normes. Dévalant les terrains glissants des culs serrés bien pensants qui ne s'embarrassent pas de se salir les pieds sur le plancher des vaches, avant de faire déferler leur solidarité excluant les points de vue adverses, au nom des sentiments les plus nobles qui ne souffrent pas la nuance de l'expérience. Gloire aux fêlés, aux mal appris et aux mal rasés, pour qui la cravate n'est rien d'autre qu'une antique bavette et une laisse sociale. Le baron chaman dansera sur vos tombes à crédit impayé, dans ton cul plein de verres, visa et autres débiteurs, la mort souveraine face aux codes de crédit et autres freins mobs de banquiers. Baron Fulpin, dindant la broue dans le toupette, prêt pour tous les codeurs de Montréal et leur enflure ventripette et collusionnaire, l'érection subversive de ton grand membre inapproprié sur toutes les tribunes de la démission collective qui crache l'envers du gros bon sang comme un petit lait distillé à la populace hagarde et stupéfaite. Baron trauma pour les enfants qui regardent la télé trop tard. À qui servent tes REER, bitch? Pendant que tu t'épivardes sur la financiarisation de l'économie, sans te questionner sur la mixture dans laquelle tu trempes ton biscuit de futur retraité du système, heureux tant qu'il paye ta rente d'invalider du sens critique. Le baron migrera sur de nouvelles plateformes et dans une nouvelle dimension s'il le faut, pour déculotter les enculeurs et leur servir leur propre médecine, fois quatre comme d'enchir de Jésus du comptable de ses scènes puis de ses remords de pauvre lui. Il est tellement occupé à son petit confort qu'à un moment donné, il se réveille tout existentiel. Ben oui, bozo, ton gel, ton soude puis tes souliers vernis pourriront pareil au bout du terme, et non, personne ne s'occupera de ta raie de bikini quand ton esthéticienne aura encaissé ton dernier chèque. Fait que le baron vous souhaite bonsoir, bonne nuit puis bonne vie, jusqu'à peut-être un moment donné, ou pas. La vie est une salope, mais trois coches moins perverses que ton pelage luisant de débauche immémoriale. Les contribuables ont encore rien vu. Que vienne ton carnaval au lieu du règne du Seigneur des castrés de la salvation des victimes interminables, pour la plus grande gloire des antiques païens qui, eux, avaient encore le sens du party et savaient joyeusement mettre à mort les parasites à Coimol au lieu de leur donner une tribune à LCN. Comme le disait jadis Dionysos et ses satires extatiques, « Amen ta mère. »
Ben merci, Baron. Donc, c'était Baron Castor, hein? Vous comprendrez qu'il a des longues dents. Le baron, c'est un castor. Alors, merci.
Oui, puis elle n'arrête pas de pousser. En fait, c'est que le castor est un animal qui subit une mort tragique. Quand il meurt de vieillesse, ses dents finissent par transpercer sa propre bouche, en fait.
Je vais réfléchir à ça et on va passer, je pense, en chanson. Ça va nous faire du bien. Merci beaucoup, Baron. Avec Jason Bajada, donc, vous allez nous jouer quoi?
J'ai même pas décidé encore.
Ah ben,
je pensais qu'on jasait.
Ah ben,
mais
on peut.
Je peux le faire une tune.
Ben, on va faire la chanson, mais on va jaser après.
Faire une tune qui s'appelle T'es pleurs.
Parfait, on écoute ça.
Ce regard me fout la trouille. J'ai esquivé les autres troubles dans ces
sixième sens me fait chanceler, me ferme les yeux et me coupe la langue. Je meurs. Oh baby, je meurs. Te comprends-tu? Sens-tu affligé? Aucun fracas depuis des kilomètres. Nos lèvres ne veulent que s'embrasser. Plonge, allez, plonge, cesse de ruminer tes peurs. Oh bébé, tes peurs. Je veux noyer tes
Merci beaucoup, Jason. Vraiment, franchement, magnifique. Et je crois que Yolaine Maudet, notre spécialiste en musique, tu as quelques questions pour Jason à
ben
lui poser.
Oui. moi, j'ai eu la chance d'écouter l'album qui sort donc le 24 avec un joli titre, Le résultat de mes bêtises. C'est quoi les bêtises que tu as faites pour écrire un tel album?
On ne peut pas jaser de ça à la radio. Non, je trouve que c'est une belle image quand même qu'une bêtise devienne chanson. Ben moi, j'écris quand ça va plutôt mal, pas quand ça va bien. Alors, ouais, c'est pas mal juste ça, je pourrais dire, qui se dit à radio. Finalement, je fais beaucoup de bêtises, puis je fais beaucoup de chansons, puis ça fait un album.
Là, cet album est en français. Est-ce que c'était une volonté que tu avais depuis longtemps? Et pourquoi tu l'as fait précisément à ce moment-là?
Je me demande souvent pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Mm-hmm. Mon père est franco, ma mère est anglo. Fait que à très jeune âge, c'était la musique, tout ce qui est culture, littérature, les cours de piano. Tout était vraiment mon monde était en anglais. J'avais des amis en français, bon, francophones, puis c'était moitié-moitié. À la maison, on parlait les deux langues. Mais je pense que j'étais un peu intimidé par la langue, honnêtement. C'est... Je dis toujours, mais il y a des maîtres dans les deux. Tu sais, bon, t'as autant que t'as des Aznavour, des Bachung, mais tu sais, t'as Leonard Cohen de l'autre côté. Puis il y a souvent des gens qui vont dire que c'est plus facile d'écrire en anglais, mais je suis pas d'accord du tout. Tu sais, je consacre beaucoup de temps à l'écriture, le lyrique. Puis je sais pas, j'étais comme un peu intimidé par tout ça de plonger dans l'univers francophone puis commencer avec une page blanche. Mais finalement, j'ai essayé. Puis je voulais que, si j'étais pour le faire, je voulais bien le faire, je voulais que ça soit naturel, je voulais que ça me tente de le faire, pas juste pour un stunt, quoi que ce soit. Puis non, j'ai vraiment trippé, je me suis enfermé dans une maison, dans une genre de cabane à Mourne Heights pendant pendant un mois de temps. Puis j'avais jamais fait ça, même en anglais, d'écrire pendant un mois une discipline, finalement. Puis je suis sorti de là avec une dizaine de chansons. J'aurais pu rien écrire, finalement, mais je suis sorti de là avec 10 chansons. J'étais très fier. Puis, puis par la suite, bon, j'ai fait écouter à des amis, au label ici, puis tout le monde était super emballé. Fait qu'au moins, au début, j'avais peut-être un peu le syndrome de l'imposteur, mais ça s'est vite placé.
Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes collaborations dans cet album? Qui a réalisé ou qui a...
Ben, la réalisation, c'est Marc Bell. C'est le même réalisateur que les deux autres auparavant. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qui est arrivé finalement? Quand j'étais à cette maison-là, à More Nights, en écriture, je suis tombé sur l'émission de Rebecca McConan, Studio 12. Mm-hmm. Puis j'ai un de mes amis qui joue dans le band de Marie-Pierre Arthur, Joe Grass, mm-hmm. un guitariste.
Excellent guitariste.
Ouais, vraiment mm-hmm. un des tops, c'est un chic type. Puis je suis tombé par hasard, c'est la seule fois que j'avais écouté cette émission-là, puis je suis tombé sur le show de Marie-Pierre Arthur. Puis j'étais complètement estomaqué par la performance musicale François Lafontaine, bon, José Major à la batterie, puis ce qui est arrivé. Après ça, je les ai vus au Franco, puis j'ai comme kidnappé son band pour faire l'album quelques mois plus tard. Fait que c'est complètement un autre. J'avais jamais travaillé avec ces musiciens-là, fait que c'est sûr que ça apporte des couleurs différentes.
Est-ce qu'on peut dire, est-ce que ce titre te va bien, que tu es un peu un crooner?
Un crooner.
Dans le sens noble du terme, dans le sens que tes chansons parlent beaucoup de relations amoureuses, puis tu as une voix un petit peu soif, comme ça. Est-ce que c'est quelque chose, un terme qui te définirait bien?
Je sais pas. J'essaie pas trop de me définir, mais c'est drôle que tu dises ça. Il y a comme, j'ai souvent dit, je sais même pas si j'étais anodin, là, mais que, tu sais, bon, le band américain The Strokes, tu sais, il y a mm-hmm. comme, c'est des tunes un peu punk rock ou rock, ou mais j'ai toujours imaginé que Sinatra pouvait chanter ces chansons-là, tu sais, genre de crooning dans sa voix que... Tu sais, ça se place dans le country autant que le punk rock. Il y avait peut-être un côté, ouais, qui... Je sais pas comment l'expliquer, mais qui pourrait être crooner. C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Mais...
OK. Ben écoutez, Monsieur Bajada, votre album va sortir quand?
Le 24 septembre, ouais. Le lancement, c'est au National, le 26. Parfait. C'est gratuit. Puis vous êtes toutes les bienvenues.
Bon, ben, le Sinatra francophone.
Moi, je vais faire
quel est votre nouveau
Sinatra de moi.
Voilà, mais merci beaucoup pour votre présence. Merci
à vous,
beaucoup, Yolaine aussi. Merci. Hein. Yeah. Très gentil. Alors, c'est notre dernière émission. Donc, les trois comparses habituels sont devant moi. Ils se partagent deux micros pour trois. C'est très drôle.
Ouais, c'est ça. Hubert et moi, on vit une nouvelle expérience présentement. On se partage un micro. C'est comme un ménage à trois.
Ben, c'est ça.
Mais
comme je suis la baronne, j'en ai qu'un.
C'est ça. La radio, ça rapproche. Alors, ben, je veux remercier. Je veux remercier tous les gens qui ont participé durant tout l'été à l'émission, en particulier notre cher metteur en ondes Charles Courcuera. Merci beaucoup, Charles.
Merci,
tu as été un
merci.
Rock.
Et ça fait plaisir, honnêtement. Très bel été à passer avec vous. Vous êtes une belle gang.
Ben merci, Charles. Et j'espère qu'on va se retrouver l'été prochain. Merci beaucoup, Hubert Sabineau. On a découvert le poète de la belle province. Et ouais. Je pense que tu devrais peut-être travailler à un recueil de poésie là, pour l'automne. Là.
Un petit trio de poèmes.
Ah, ce serait magnifique. Merci aussi, Marc Ouimet, le Baron Castor.
Plaisir. Toutes mes personnalités ont été extrêmement heureuses de
ben oui, tu nous as surpris, tu nous as fait peur un peu, mais des fois, il faut être dérangé. Alors, tu as joué ce rôle.
Dérangé, je suis certainement, et encore plus l'année prochaine.
Ce rôle, indéniablement, tu as joué ce rôle. Et merci beaucoup, Élodie Comtois, aussi, pour ta chère présence.
C'est un plaisir de parler de choses sérieuses ou légères, rarement.
Ah, bon, ben écoute, on remercie aussi en terminant, donc, Yolaine Maudet qui était là, Nadine Gomez qui a fait aussi quelques apparitions, Marc-André Fauché qui était notre correspondant des Îles-de-la-Madeleine. Et là-dessus, ben je vous souhaite une très belle rentrée.
Merci, Benjamin, okay. pour ta constance.
Merci, donc, ma constance. On se retrouve l'été prochain, au mois de juin, je l'espère. Donc, c'était Benjamin au micro. Vous avez écouté les Étés généraux. Passez une belle soirée.
Cherchez un piano ? Du 23 août au 15 septembre, c'est le grand solde de pianos de la rentrée chez Archambault. Surveillez l'arrivée des pianos utilisés aux camps musicaux d'Orford, Perlinzé et du domaine Forget. Profitez en plus d'offres exceptionnelles sur les pianos Yamaha. Seulement chez Archambault Montréal au 500 rue Sainte-Catherine-Est et Archambault Sainte-Dorothée au 520 autoroute Chaumédé à Laval. Venez rencontrer nos experts et profitez de conseils personnalisés. Archambault, la plus importante maison de piano au Québec.
Vous êtes à pied, à vélo, en autobus, en métro ou en train? CIBL vous propose ses bulletins de déplacement alternatifs. Présentés du lundi au vendredi à la 15e et à la 45e minute, de 6h à 9h et de 16h à 18h, nous vous informons en temps réel sur la situation dans les transports collectifs à Montréal. Le bulletin de déplacement alternatif de CIBL est rendu possible grâce à la participation de l'AMT, la STM et la Ville de Montréal.
OK, Montréal, tu peux le dire à tout le monde. Il y a une nouvelle émission qui vient d'arriver sur CIBL. Le truc s'appelle bien Sandre Bell. Rien que du gros son lourd francophone et international. Ça se passe tous les mardis soirs de minuit à 1h du matin sur 101.5 à Montréal. T'es obligé de le dire à tout le monde. C'est rien que de la bonne vibration dans ta radio. OK.
Ce soir, à votre magazine radio In Situ, suite de notre spécial Expo Collective Estivale avec les